traqué par toutes les polices du Canada, réclamé par les États-Unis, recherché par l'Interpol. Un évadé, Lucien Rivard. Sorti comme par enchantement, comme dans un conte de fées pour gangster et pour mauvais garçon, de cette prison de Bordeaux vétuste, inadaptée, presque anachronique, dans le Montréal opulent de 1965, hélas marqué des lèpres de la pègre.
Lucien Rivard n'a donc pas dit son dernier mot.
Le 2 mars 1965, on est au printemps, c'est une journée qui n'est pas très froide. Rivard et un de ses co-détenus, André Durocher, demandent aux gardiens la possibilité d'aller s'occuper d'arroser la patinoire extérieure.
Jean-Pierre Charbonneau nous raconte cette évasion digne d'un roman policier.
Avec, semble-t-il, le boyau et puis une fausse arme à feu qu'on avait fabriquée avec du bois et de la teinture de chaussures. En fait, on a neutralisé les gardiens. On a sauté le mur et on a intercepté un véhicule, puis on a fui.
Menaçant les gardiens avec une fausse arme en bois, Lucien Rivard et un co-détenu auraient franchi le mur d'enceinte de la prison à l'aide d'un tuyau d'arrosage.
Ça, c'est la version la plus spectaculaire. La deuxième, c'était qu'on avait des complicités à l'intérieur. On s'est fait ouvrir la porte et puis on a pris la clé des champs.
Comme beaucoup de gens qui se sont penchés sur cette histoire, les aspects incongrus de l'évasion m'amusent. Et comme l'auteur Benoît Gignac, je reste sceptique sur cette version des faits.
Les autorités politiques comprennent très vite que Rivard est sorti de Bordeaux avec l'aide de l'administration en place, mais ne veulent pas, absolument pas, que ça se sache. Alors, ils vont eux-mêmes faire en sorte que cette histoire totalement rocambolesque prenne le haut du pavé.
Cette évasion spectaculaire est le début de l'une des plus célèbres chasses à l'homme menées au Canada.
French Connection. Marseille, Montréal, New York. Avec Stéphane Berthomé. 4e épisode.
La chasse à l'homme a commencé. Patrouilles motorisées, patrouilles à pied coordonnent patiemment leurs efforts. Tout un faisceau de renseignements, d'observations et d'indices, parfois contradictoires, converge vers le quartier général de la police. Cette nuit, dans Montréal faussement assoupi, des dizaines, des centaines d'hommes n'ont plus d'autre pensée que la capture de Lucien Rivard.
Durant sa cavale, Rivard ne disparaîtra pas tout à fait. Comme l'explique Benoît Gignac, il s'assure de rester présent dans les médias et auprès du public en envoyant des lettres à plusieurs personnalités impliquées dans son dossier.
Il est très poli dans ses lettres. Il s'excuse auprès du premier ministre. On fait sortir une lettre qu'il écrit à sa femme pour dire qu'il s'ennuie d'elle. Ces fameuses 4 lettres, elles sont distribuées aux médias par la femme de Lucien Rivard qui vend les lettres aux journaux. 3 000, 4 000, 5 000 $. Donc, elle se fait un commerce. En fait, Rivard aide sa femme pendant qu'il ne peut pas lui faire parvenir d'argent en lui donnant des lettres qu'elle vend au journaux. Elle va même demander de l'argent pour accorder des entrevues durant cette période-là. Ça devient vraiment une affaire complètement folle.
C'était devenu l'ennemi public numéro un, mais c'était aussi devenu la vedette médiatique numéro un. Et pour bien des gens, c'était devenu un personnage sympathique. C'est une espèce d'Arsène Lupin. Il s'amusait de voir Rivard ridiculiser les autorités, ridiculiser la police, en oubliant que c'était un trafiquant d'héroïne.
Mais il y a un côté éminemment sympathique et canadien-français. On aime bien que quelqu'un puisse rouler la police, plus défier l'autorité. Ça, c'est encore vrai aujourd'hui. Il y a des gens qui font des carrières là-dessus, mais Rivard fait ça, il nargue littéralement les policiers. Et les policiers ne trouvent pas ça drôle, eux. Pas du tout.
Cette fuite est aussi ponctuée d'actes de violence et de mauvais goût. Des comparses de Rivard sont ainsi froidement assassinés lors d'un règlement de compte autour du butin d'un vol. La capture de Rivard est devenue une véritable priorité au pays.
Le nombre de policiers qui sont affectés à la poursuite de Rivard, je pense que c'est inégalé dans les annales de la recherche de suspects au Québec. Ils veulent vraiment l'avoir, le gars. Et ça va prendre 136 jours pour qu'il réussisse.
Lucien Rivard, l'un des hommes les plus recherchés au Canada, a été arrêté vendredi à 15 000 au sud-ouest de Montréal.
Après plus de 4 mois de travail acharné, la police parvient enfin à remonter jusqu'à l'endroit où se cache le célèbre criminel.
L'arrestation s'est effectuée sans aucune résistance de sa part aux environs de Châteauguay à 5h05 le 16 juillet 1965.
Cette cavale, aussi incongrue que surprenante, s'arrête à quelques kilomètres à peine de la prison où elle a commencé.
Vous savez que Lucien Rivard a été capturé? Qu'est-ce que vous pensez de sa capture?
Ça me déçoit un peu parce qu'on l'a idéalisé. On avait fait de lui le gangster qu'on voit dans les romans policiers. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il était un peu simple et il aurait pu aller ailleurs avec tout l'argent qu'il avait.
Vous auriez souhaité qu'on le reprenne pas?
Non, je suis pas prête à dire ça. Ben, un peu. Les journaux nous l'ont fait apparaître de façon tellement sympathique.
Sympathique aux yeux du public, mais extradé et emprisonné aux États-Unis peu de temps après son arrestation. Comme le souligne Benoît Gignac, c'est la fin du parcours pour Lucien Rivard.
L'histoire se termine à peu près là. Il reçoit une condamnation de 20 ans, mais il ne va purger que 10 ans à cause de bonne conduite. Et plus jamais on entendra parler de lui à titre de criminel ou de personnalité publique.
Rivard décédera au Québec en février 2002 sans qu'on ait plus jamais entendu parler de lui. Depuis, il occupe dans la mémoire du milieu criminel nord-américain une place toute particulière.
Il n'a pas créé une nouvelle mafia, il n'a pas fonctionné selon des codes, il ne fait pas partie d'une lignée de quoi que ce soit. Il n'y a eu personne avant lui dans sa famille, personne après, il n'a pas eu d'enfant. En fait, c'est un solitaire supérieurement intelligent par rapport à bien d'autres qui œuvraient dans le métier.
Mais de leur côté, les Guérini à Marseille, les Cotroni à Montréal et les familles de la Cosa Nostra de New York ne semblent pas vouloir ralentir la cadence des trafics, bien au contraire. Les pays producteurs d'héroïne base, comme la Turquie, ne souhaitent pas, eux non plus, voir baisser leurs revenus. Et pourtant, au milieu des années 60, les affaires vont se compliquer pour ces grands noms de la French Connection.
Tout le monde veut se mettre à faire de l'héroïne. Ça intéresse tout le monde. Il y a une telle demande aux États-Unis et au Canada que beaucoup de truands vont essayer de monter des coups. Il y a une sorte de boulimie pour faire de l'héroïne.
Le journaliste François Missen se souvient de l'avidité avec laquelle les voyous s'activaient malgré les risques sans cesse croissants.
Justement, on n'a pas beaucoup parlé des Guérini.
Et bien sûr.
Est-ce que les Guérini, c'était réellement la famille incontournable qui gérait le business à Marseille?
Ah, tout à fait. Le proxénétisme, la drogue quand il fallait. Les Guérini sont des gangsters.
À Marseille, la famille Guérini, qui est mêlée de près ou de loin à la plupart des trafics qui transitent sur son territoire, n'a pas l'intention de diminuer la cadence malgré la pression américaine et les arrestations. François Missen, qui a rencontré plusieurs fois les membres de la famille Guérini, se souvient bien de la place unique qu'ils occupaient au sein du système criminel français.
Dans les années 50 jusqu'à les années 70, on peut parler de parrain peut-être en évoquant le personnage d'Antoine Guérini.
Antoine Guérini dirige les affaires, tandis que Barthélémy, surnommé Mémé, gère le terrain.
On venait voir Antoine Guérini comme une sorte de conseiller spécial. Il y a le pape et les cardinaux. Eh ben, on peut dire que Antoine Guérini était le pape de Marseille et les cardinaux, tous les autres en quelque sorte dans le milieu de la prostitution, sur le milieu de la drogue, etc. Eh ben, c'était ses assesseurs.
Antoine Guérini doit certainement se sentir intouchable. Mais un différend avec un seul homme va provoquer la chute de tout un empire criminel. En entrant en conflit avec un ancien commissaire de police corrompu nommé Robert Blément, le chef de la famille Guérini, Antoine, commet une erreur fatale. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Robert Blément est policier à la Sûreté du Territoire, le service de contre-espionnage français auquel j'ai moi-même appartenu quelques 60 années plus tard. Il passe pour être un homme expéditif qui ne s'encombre ni des règles ni des procédures, et il n'hésite pas à utiliser la torture et embaucher des criminels pour mener à bien ses missions. Les Guérini et Blément ont été des résistants de la première heure et dès les années 40, ils ont œuvré ensemble pour lutter contre l'occupant allemand.
Les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France.
Après la guerre, Blément quitte la police avec les honneurs. Il a reçu la Croix de guerre et la Légion d'honneur. Mais il continue à entretenir des liens étroits avec la pègre.
Il devient propriétaire de plusieurs cabarets à Marseille et à Paris avant de s'associer avec certains membres de la French dans des cercles de jeu. Mais dans les années 60, les méthodes de Bléman irritent les Guérini. Milou Diaz, qui faisait encore partie du milieu à cette époque, se souvient des raisons de cette discorde. Raison qui tenait essentiellement à la façon plutôt expéditive que Bléman avait de mener ses affaires.
Ce mec, il recevait des Turcs à Lambesque dans sa villa. Il avait la marchandise, il les tuait et les enterrait. Il allait voir les Guérini, il leur donnait la marchandise, mais les Guérini, ils donnaient les sous, l'argent, pour payer le Turc. Mais lui, il ne pouvait pas payer le Turc puisqu'il avait enterré. Et donc, il se mettait l'argent dans la poche.
Pour les parrains marseillais, cette technique de la terre brûlée n'est évidemment pas bonne pour les affaires.
Les Guérini l'ont su, ça. L'ont su. Et ils ont été voir Bléman, ils y ont dit, on sait que tu n'as pas payé le Turc, que tu l'as tué, que tu l'as enterré. Donc, tu ne travailleras plus avec nous et tu travailleras avec plus personne. Ils l'ont mis tricard, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'ils lui ont interdit de travailler. Il a été voir les Italiens. Les Guérini, ils ont appris. On sait tout, nous. Toi, eux, ils savaient tout plus avant même moi, hein, à l'époque. Hein. Donc, ils ont été voir les Italiens. Ils ont dit, mais vous savez que vous travaillez avec une ordure. Alors, nous, on y a interdit de travailler à ce mec. Et à vous, on va vous interdire de travailler aussi avec ce mec.
En 1965, le torchon brûle entre les Guérini et Bléman. Antoine Guérini décide de faire exécuter Bléman, qui est abattu d'une rafale de pistolets mitrailleurs depuis une voiture. Comme le souligne Milou Diaz, les Guérini viennent de commettre une grosse erreur.
Et ils se sont mis tout le milieu à dos.
En mettant leur contentieux avec Bléman sur la place publique, les Guérini font un peu trop de bruit aux yeux de certains partenaires qui tiennent à leur tranquillité.
Tu sais, dans le grand banditisme, on va parler du grand banditisme. Le voyou, il ne faut pas qu'on parle de lui. Il ne faut pas qu'on dise son nom. Sinon, il ne lui manque plus que les clous, il est déjà dans la caisse en bois. Il est déjà mort, celui dont on parle. Et les Guérini, c'était ça. Les Guérini, c'était ça.
Bléman disposait de très solides soutiens dans le milieu criminel qui n'apprécie pas qu'on se soit ainsi débarrassé de l'ancien résistant.
Tu sais, à Marseille, ça ne te vite. Si tu es sur la pente, on ne te retrace pas, on te pousse sur la pente. C'est vite fait, c'est vite fait. Voilà ce que c'est que le milieu. Le milieu, c'est malheur au vaincu. Malheur au vaincu.
La sanction ne se fait pas attendre pour Antoine, le chef de la famille Guérini.
Le 23 juin 1967, Antoine Guérini, le caïd, était froidement exécuté dans la banlieue marseillaise de Saint-Julien alors qu'il faisait le plein de sa Mercedes, exécuté par deux tueurs à moto qui le criblaient littéralement de 11 balles de calibre 11 mm 43.
Un mois plus tard, sans que cela ait le moindre rapport, un homme cambriole la villa du défunt pendant son enterrement. L'homme ignore totalement qui il a cambriolé et s'attire les foudres de Mémé Guérini.
Le 22 juillet 1967, un couple d'amoureux en effet retrouva son corps, torturé et criblé de balles, dans des fourrés du Cap Canaille, une sorte de belvédère situé à 350 mètres environ au-dessus de la mer à Cassis, près de Marseille.
Emporté par la colère, Mémé Guérini paiera chèrement cet acte de vengeance.
Le vendredi 4 août, le groupe de répression du banditisme du SRPJ de Marseille arrêtait Mémé Guérini et ses hommes dans une salle du Méditerranée à Marseille, le nightclub de Mémé. Tous étaient armés de pistolets automatiques de très fort calibre.
C'est la fin du clan Guérini et le début d'une redistribution des cartes dans le milieu criminel marseillais qui sombrera quelques années plus tard dans une vague de règlements de compte.
Fusillade en fin d'après-midi vers 19h en plein Marseille. Cela s'est passé à la hauteur
des plus sanglants règlements de compte de ces dernières années sur la
Les policiers ont surpris deux chimistes en train de penser qu'il s'agit d'une vengeance. Il n'y a qu'un pas. On peut parfaitement supposer que
les deux hommes se brouillent pour une affaire de dettes non payées. Leur règlement de compte ensanglantera le pavé marseillais.
À Montréal, le sort de la famille Cotroni n'est guère plus enviable. Revenons quelques années en arrière sur les événements qui ont conduit à mettre hors jeu le clan Cotroni. Quand Rivard est arrêté en 1964, puis extradé aux États-Unis quelques mois plus tard, Giuseppe Cotroni est en prison, mais ses frères, Franck et Vic, ont pris la relève et le trafic d'héroïne entre la France et les États-Unis se poursuit plus que jamais. Vic est à la tête du clan et Frank dirige les opérations, aidé d'un certain Paolo Violi.
Quand Violi est arrivé dans le décor à Montréal, il est devenu un des associés de Vic, qui était très actif dans la communauté italienne. Alors que Frank Cotroni avait des relations dans la PEG italienne, mais beaucoup aussi dans la PEG canadienne-française. Violi aspirait à être le nouveau parrain un jour, donc Vic l'avait comme initié et accepté, et en avait fait d'une certaine façon son dauphin.
Jean-Pierre Charbonneau enquête sur les liens éventuels entre des criminels et les autorités, et il fait d'intéressantes découvertes.
Moi, comme journaliste, j'ai écrit une première série d'articles au début de janvier 1972 sur la corruption du chef de police de Montréal, qui était en relation avec les cahiers de la mafia puis du clan Cotroni. Puis on en est venu aussi à voir des liens entre l'organisation Cotroni puis des politiciens du gouvernement du Québec.
Les articles de Charbonneau font beaucoup de bruit, et c'est assez rare pour être souligné. Ces révélations poussent les autorités à lancer en 1972 la commission d'enquête sur le crime organisé, la SECO.
Veuillez vous asseoir.
Samedi dernier, 17h. Dans une salle d'un immeuble moderne, le palais de justice de Thetford Mines, Jean Dutille, avocat, est assermenté juge.
La commission jette un regard cru sur le pouvoir et la force des clans mafieux au Québec, qui sont clairement nommés et pointés du doigt.
Alors, Monsieur le Président, nous continuons notre démonstration des rapports entre le clan Cotroni-Violi et les mafiosos reconnus d'Italie et les familles new-yorkaises.
Vic Cotroni passe devant le président de la commission, Jean Dutille, le 30 novembre 1973 et il prétend qu'il n'est pas le parrain de la mafia montréalaise.
Dutille a attaqué plus de front l'organisation Cotroni. Et mais aussi, peut-être pour la première fois, les Violi sur le grill, parce que le rôle de Paolo Violi auprès de Vic Cotroni est mis en évidence.
À 23 ans, le jeune journaliste Jean-Pierre Charbonneau est particulièrement bien informé. Il est très actif à mettre en lumière les dessous du monde criminel.
J'ai commencé à couvrir la commission d'enquête sur le crime organisé. Mon attentat est arrivé le 1er mai 1973.
Un journaliste du quotidien Le Devoir, M. Jean-Pierre Charbonneau, a été blessé au bras vers 9h30 ce soir par un jeune homme qui est entré dans la salle de rédaction du journal en demandant le journaliste et qui a ensuite sorti un revolver et tiré 3 balles dans sa direction. Le journaliste Charbonneau couvre l'enquête sur le crime organisé et il est considéré comme un spécialiste des questions touchant la pègre.
Le ministre de la Justice du Québec, M. Jérôme Choquette, faisant allusion à l'attentat dont a été victime avant-hier un journaliste du Devoir, a déclaré que la possibilité qu'un lien existe entre cet incident et le crime organisé confirme la nécessité de l'enquête en cours sur le crime organisé.
Même si on sait que ces articles, toujours précis et détaillés, irritaient les membres du milieu criminel montréalais, on ne connaîtra jamais vraiment les raisons qui ont pu motiver cet attentat contre Charbonneau. Le message, volontaire ou non, est passé. Il est dangereux de se mêler des affaires de la mafia. Blessé au bras, Jean-Pierre Charbonneau se remettra bien de cette fusillade. 2 ans plus tard, le journaliste qui deviendra ensuite un homme politique important au Québec fera paraître l'un des ouvrages les plus complets qui ait jamais été écrit sur cette période en Amérique du Nord.
This commission order you testify.
No, I don't want to testify.
Do you refuse?
I don't say I refuse.
You don't say you refuse, but you don't testify.
La commission d'enquête sur le crime organisé coûtera à Vic Cotroni et Paolo Violi 1 année de prison pour outrage, pour avoir refusé de répondre aux questions qui leur étaient posées.
Mais 1 an de prison pour Vic Cotroni, pour Paolo Violi, c'était 1 inconvénient pour diriger directement les opérations, puis pour se protéger contre des problèmes de loyauté ou de concurrence.
La famille Cotroni, impliquée jusqu'au coude dans le trafic d'héroïne, s'en tire alors à très bon compte. Et peu de temps après, Vic Cotroni confie les responsabilités d'une organisation affaiblie à Paolo Violi. C'est à la fin des années 70 qu'une guerre éclate entre les Calabrais dirigés par Paolo Violi et les Siciliens dirigés par Niccolò Rizzuto et son fils Vito.
Ça faisait déjà quelques années qu'il y avait une rivalité assez forte entre la famille Rizzuto et la famille Violi. Mais à un moment donné, ils ont décidé que c'était assez et que le temps était venu de tasser par la force et par la violence les Violi. Alors, Paolo était éliminé, puis 2 de ses frères aussi.
Paolo Violi was hit twice at close range with shotgun blasts.
Violi et ses frères sont assassinés les uns après les autres, et la famille Rizzuto prend le contrôle du milieu en signant la fin d'un règne mafieux de près de 30 années pour les Cotroni. Vic Cotroni, épargné par cette guerre de pouvoir, meurt d'un cancer en septembre 1984 à l'âge de 73 ans. À l'aube des années 80, malgré la mise en place bien tardive mais effective d'une véritable collaboration entre police américaine et française, les filières de trafic de drogue entre la France et les États-Unis n'ont pas totalement été démantelées. Elles ne le sont pas plus aujourd'hui, mais les grands acteurs de l'après-guerre ont passé la main ou sont morts de façon violente, comme cela arrive souvent dans le milieu criminel. L'impact de la French est très lourd en termes de santé publique, la toxicomanie étant un fléau qui ne cessera jamais de prendre de l'ampleur. Et paradoxalement, on pourrait presque conclure que c'est l'efficacité des filières mises en place par les criminels eux-mêmes qui conduira la French vers la fin de son histoire. La première erreur des trafiquants est en effet d'avoir eu les yeux plus gros que le ventre en inondant les États-Unis, déclenchant ainsi la colère du gouvernement américain.
Il y a eu un gros incident politique, diplomatique, entre Nixon et Pompidou.
Mission est aux premières loges de l'affaire.
Dans l'avion qui amenait Nixon et Pompidou au sommet des Açores. Je me le suis fait raconter par une source très autorisée de l'entourage du président. Et Nixon avait traité Pompidou en français de con. En lui disant, je n'accepte pas que vos trafiquants inondent l'héroïne des États-Unis. Ça avait été un très très gros incident diplomatique.
Mais la seconde et plus grande erreur stratégique est certainement d'avoir laissé le trafic s'installer aussi dans l'Hexagone. Milou Diaz, qui était à l'époque encore en activité, se souvient de la façon dont les choses se sont enchaînées.
Il n'y avait pas de drogue dans l'Hexagone. Nous, comme nous disaient les ministres du général de Gaulle, ils nous disaient « tant qu'on empoisonne les Américains, on s'en fout ». C'était comme ça. Mais un jour, les Turcs, ils se sont mis à livrer des quantités, ça nous a dépassé, ça nous a débordé. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a empoisonné nos propres enfants.
Dont la première morte à l'héroïne au casino de Bandol, la petite Martine, qui avait 17-18 ans, qu'on a retrouvée avec la seringue dans les veines.
Mission a été l'un des tout premiers, au début des années 70, à mettre en évidence les ravages de l'héroïne à Marseille.
Alors je commence à raconter dans les colonnes du journal des toxicomanes qu'on voit dans la rue, etc. Et donc c'est à partir du moment où on voit des toxicomanes français dans la rue que la France décide de s'attaquer à l'histoire. Donc on a ignoré pendant 50 ans que la France, comme on dit à Marseille, emboucanait les États-Unis. Mais cette fois-ci, parce que les bons petits Français devenaient aussi vulnérables que des pauvres noirs américains, à ce moment-là, on a commencé à s'y intéresser.
Milou, comme les autres trafiquants de la French, a compris trop tard qu'il s'était tiré une balle dans le pied.
Là, on s'est massacré. C'est-à-dire en Europe, ça a explosé le marché. Les flics, ils nous ont eu par rapport à ça. Ils nous ont pas eu par rapport aux Américains. Ils nous ont pas eu. Ça, c'est tout bidon, ça. On aurait continué à l'aise. Mais nous, on a continué malgré qu'il fallait temporiser.
Et donc, ils continuent. Combien t'as vu passer de tonnes ?
J'ai pas compté, mais je peux te dire à peu près 13 tonnes. On parle de 10 ans, hein ?
Oui, c'est ça, la moyenne.
C'est pas beaucoup, hein. Ça fait une tonne ou trois par an, hein. À moi et mes associés, hein. J'étais pas seul. Hein. Il n'y avait pas trois labos à Marseille. Hein. À Marseille, il y avait à peu près 50 ou 60 labos.
Encore aujourd'hui, ces chiffres impressionnent. Mais le coût de la French Connection ne se mesure pas qu'en tonnes de drogue. Il se compte aussi et surtout en centaines de milliers de toxicomanes et milliers de morts d'overdose tout au long des décennies suivantes. Un sujet sur lequel Milou Diaz jette, encore aujourd'hui, un regard mitigé.
Je savais que je faisais mal. Je savais. Bah, au même titre qu'un patron, quand il embauche 20 ouvriers et qu'il en débauche 14, qui sait qu'il fait mal. L'absence de scrupules, elle était comme ça, quoi. Presque pour moi, c'était presque normal. Moi, je ne cherche pas à me justifier. Je dis c'est comme ça, c'est de l'histoire, c'est tout. On n'allait pas à la sortie des écoles pour vendre la drogue, nous. Moi, j'ai jamais vendu la drogue dans la rue, moi. Aujourd'hui, il n'y a pas d'héroïne. Il y a le fentanyl, le captagon, le LSD. Il n'y a jamais eu autant de drogue qu'aujourd'hui. Quand je me regarde dans la glace, je me désole. Quand je me compare, je me console.
Ni une contrition, ni une exonération. Il est difficile pour le commun des mortels de comprendre le système de valeurs dans lequel évoluent les voyous. Reste que des centaines de milliers d'hommes et de femmes ont sombré dans l'enfer de la drogue parce que des trafiquants voyaient là un bon moyen de gagner de l'argent, beaucoup d'argent.
Tout le monde y gagne, même les journalistes y gagnent. Je dis aujourd'hui avec une certaine forme de dérision, moi-même, mais je vis de la drogue. Tout le monde y gagne, tout le monde.
Et si le bilan de la French est difficilement quantifiable, Thierry Colombier, qui a mené de nombreuses recherches sur le sujet, a tout de même tenté d'en dresser un portrait le plus juste possible.
Grâce aux trafiquants que j'ai rencontrés, il y a quelques documents que j'ai pu consulter émanant de la police et de la justice française, je me suis amusé à estimer le chiffre d'affaires de ce qu'on appelle une grande équipe. Alors, pour un an d'une grande équipe, c'est à l'époque 10 millions de dollars. Aujourd'hui, en 2020, ça correspond à 1 milliard de dollars.
Flairant la bonne affaire, des amis, des groupes, des réseaux, des bandes organisées et bien sûr de véritables organisations mafieuses structurées se sont lancés à l'époque dans ce qui n'était à leurs yeux que du commerce.
À l'époque, dans les années 60, il y a à peu près, allez, à minima, 30 équipes qui travaillent en même temps. Chiffre d'affaires, 1 milliard de dollars. Si on le calcule sur 10 ans, on tombe sur un chiffre astronomique d'aujourd'hui, hein, de 300 milliards de dollars.
Les policiers savent bien par expérience que les bénéfices engendrés par les réseaux criminels sont généralement réinvestis dans l'économie légale, ce qu'explique Thierry Colombier.
Ces gens-là m'ont dit, et j'ai pu croiser l'information à de nombreuses reprises, qu'ils avaient investi l'argent de la French Connection dans des secteurs porteurs pour l'avenir, à savoir tout ce qui relève de la pharmacie, du tourisme. Si la moitié des bars et des brasseries et des hôtels aujourd'hui appartiennent au milieu, je dis bien aujourd'hui appartiennent au milieu, c'est parce qu'à cette époque-là, on savait que c'était porteur d'avenir, donc porteur de profit.
Des investissements et des profits dont on peut encore aujourd'hui mesurer l'impact dans tout le sud de la France.
L'industrialisation du tourisme en France s'est réalisée dans les années 1973-74 avec les fameux plans. Donc la plupart de cet argent des trafiquants de la French Connection a activement participé à créer les centres de loisirs en France, que ce soit sur la Méditerranée, de Perpignan à Monaco, et que ce soit tout ce qui relève des sports d'hiver. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans une station balnéaire en France, lorsque vous allez dans une station de ski, vous pouvez dire qu'une grande partie de ces installations ont été financées par l'argent de la drogue.
Ces réseaux criminels, complexes à identifier, les liens avec un certain milieu politique et les milliards de dollars blanchis et réinvestis dans l'économie légale expliquent certainement en partie pourquoi la police a eu tant de mal à mettre fin à la French Connection. Cela explique aussi que lorsque la filière française a commencé à se tarir, de nouvelles sources ont pris le relais, notamment en Asie et en Amérique latine. C'est justement en Colombie que, dans les années 80, quelques membres importants de la French se réfugient pour échapper aux forces de police françaises et américaines.
Parce qu'ils en ont de l'opium en Amérique du Sud. Ils veulent qu'on leur fasse de l'héroïne. Et il y a quelques chimistes marseillais comme certains des jeunes là, qui ont travaillé avec les vieux. Ils sont montés et ils ont fabriqué de l'héroïne.
L'un d'entre eux, qui faisait partie des premiers réseaux de la French, y sera surnommé El Mago, le magicien. Tant l'héroïne qu'il parvenait à produire au beau milieu de la forêt amazonienne était d'une qualité exceptionnelle. Et ce n'est sûrement pas un hasard si, à cette même époque, le nom d'un célèbre criminel colombien commence à donner des maux de tête aux autorités américaines.
Les Pablo Escobar, les El Chapo et compagnie, ils sont venus demander qu'on leur fasse l'héroïne.
Pablo Escobar et le cartel de Medellín. El Chapo Guzman et le cartel de Sinaloa. De la même manière que la French n'aurait certainement pas existé sans les réseaux de trafic internationaux déjà en place et le savoir-faire exceptionnel des chimistes français, il est tout à fait possible que l'émergence des cartels colombiens ait un lien assez proche avec la fin de la French Connection. Ou peut-être s'agit-il encore d'un mythe. Un de plus dans le sillage de la French.
French Connection,
Marseille, Montréal, New York. Avec Stéphane Berthomet. Réalisé par Cédric Chabuel. Design sonore par Création Sonore, Radio France. L'équipe tient à remercier particulièrement Jean-Pierre Charbonneau, François Mycène, Milou Diaz, Thierry Colombier, Benoît Gignac, Pierre de Champlain. Merci aussi à l'Institut national de l'audiovisuel pour les archives françaises et à la médiathèque de Radio-Canada pour les archives canadiennes. French Connection Marseille, Montréal, New York est une coproduction Radio-Canada Audio et France Culture.